That was the freedom bell. To remind you that you are listening to
Radio Campus Grenoble 90.8.
L'apérophonie, le booster musical et culturel.
This is Radio
90.8.
Radio. There is news every hour that we are on the air. Every hour on the hour. We transmit world news, truthful and undistorted. Our feature programs offer music, satire, entertainment, information, commentary, and services. Real services.
L'apérophonie.
Yes, music just to please our audience.
L'apérophonie. Apérophone. Apérophile.
L'apérophonie.
This radio station has been constructed.
Apérophonie.
Apérophonie. Le cocktail musical et culturel du 90.
Freedom of speech.
Radio.
Communication.
Plus Grenoble, 90.
L'apérophonie.
Apérophonie.
Le booster musical et culturel de ta radio.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'apérophonie. Il y a du monde ce soir dans les studios. Il avait déjà le regard pétillant, un corps d'athlète sculpté par son année à la réserve et ses nombreux entraînements pour le marathon. Rien n'enlève à son charme et on peut enfin dire qu'il est commissaire d'exposition.
Caïs Benani à l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Et oui, ce soir, nous recevons Caïs Benani à l'apérophonie et c'est un studio bien rempli, notamment parce qu'il y a Brice Hugonnet derrière le micro.
Bonjour.
Bonsoir. Et Justine Mal.
Bonsoir.
Alors, si vous étiez des auditeurs réguliers de l'année dernière, vous aurez reconnu l'équipe de La Tête dans le Pâté. Caïs propose la première exposition de sa vie, bientôt, dans le cadre du Festival culturel interuniversitaire organisé par la Commu, le Festival Rêve. Et il était aussi intervenant pour des chroniques artistiques d'art dans La Tête dans le Pâté.
Bien dit.
Et donc...
Il y a des chroniques artistiques qui ne sont pas d'art.
Et donc, nous avons décidé de lui faire une petite surprise. Donc, il pensait n'avoir que moi ce soir. Et finalement, Justine et Brice sont là aussi pour lui poser des questions ce soir. Et il y aura aussi une chronique surprise au cours de l'émission qui te sera proposée. Voilà. Alors,
et aux auditeurs également.
Et aux auditeurs, bien sûr, qui nous écoutent. À la technique, c'est Michel. Non, à la technique, c'est Jérémy. Salut Jérémy.
Salut Émilie.
Tout va bien ?
Ça va, super.
Et on a un auditeur libre ce soir, Pauline, une copine de Caïs. Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Superbe, voilà, vous avez tout le studio à portée d'oreille. Alors Caïs, tu proposes une exposition dans le cadre du festival Rêve, Icônes et Idoles, à la salle du Trievos, donc au sommet de la Bastille. La première question qu'on voulait te poser, c'est peut-être de te présenter, parce qu'il y a plein de gens sur les ondes qui ne te connaissent pas.
Mon Dieu, comment ils font ? Alors, je m'appelle... tu m'as déjà bien présenté de façon très flatteuse au début. Je m'appelle Caïs Benani, j'ai 24 ans depuis peu. Je suis étudiant en histoire de l'art, en Master 2. J'interviens ici depuis quelques années, depuis que vous m'avez invité pour parler d'une conférence. Et depuis, je ne suis jamais parti, mais à Rome, je vous envoyais des petites chroniques et c'était toujours un plaisir. Et voilà, je suis revenu de Rome et j'ai eu la chance d'hériter de ce projet, d'organiser une exposition d'histoire de l'art, une exposition d'art contemporain, ce qui, à mon âge et avant la fin de mon cursus, est vraiment une chance immense. Voilà, voilà.
Comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire cette exposition ?
C'est marrant que ça soit toi qui poses la question. Parce que quand je suis revenu de Rome, à un moment, je vois sur Facebook une de mes amies, Émilie, quand tu avais encore un compte Facebook, je crois. Donc, Émilie qui poste un truc du genre « Je suis au bar pour une dernière émission, La Tête dans le Pâté ». Du coup, je me dis « Je vais lui faire une surprise ». On boit un coup et là, tu me dis « La Commu recherche quelqu'un pour organiser une exposition d'art contemporain. Est-ce que je peux te présenter Bertrand ou je ne sais qui ?» Et puis, un mois après, j'ai rencontré Bertrand et c'était dans le sac, dans la poche.
Ok. Et alors, comment est-ce que tu as imaginé, du coup, ce sujet d'exposition icône et idole ? Qu'est-ce que ça représente ?
Alors, moi, J'ai choisi ce sujet avant même de savoir que le titre, le thème du festival allait être rêve. Du coup, j'ai dû un peu par articulation théorique lier un peu les deux, icône et idole et rêve. Mais à la base, j'ai choisi ce sujet parce que, vous le savez sûrement parce que c'est pas la première fois qu'on fait une émission ensemble. J'aime bien toujours montrer que même dans notre culture actuelle, notre culture populaire, notre culture de masse, grand public, cinéma hollywoodien, jeux vidéo, musique et autres, survit encore un peu quelques traces à la fois de sacré, de spirituel, d'historique, d'archétypal. Voilà, des sortes des réminiscences, des survivances d'une sorte de comportement religieux malgré l'apparente désacralisation, sécularisation de notre société, dans notre culture. Il y a des mots qu'on utilise assez souvent dans notre langage culturel, dans notre langage, enfin dans le milieu médiatique, comme par exemple c'est l'icône d'une génération, c'est l'idole des jeunes. Les mots, même si aujourd'hui ils sont un peu désacralisés, on les a un peu déchargés de cette charge religieuse pour le coup, ils n'ont pas été choisis par hasard. C'est comme fan, c'est la contraction de fanatique. Star, c'est une étoile, quelque chose d'à la fois profondément brillant, enfin extrêmement brillant, mais aussi extrêmement lointain, hors de portée, inaccessible. Et également, icône et idole, une icône à la base, avant d'être une sorte de star aujourd'hui, c'est surtout une image religieuse, simplement, une image chargée de sacré. Et une idole, ce sont des statues qu'on vénère à la base.
Tu devances ma question qui était donc comment sont caractérisées ces icônes et ces idoles finalement ?
Désolé.
Comment est-ce que tu as choisi les artistes et qui sont-ils ?
Alors ça a été une véritable aventure pour trouver ces artistes parce que du coup moi je suis étudiant en histoire de l'art, j'étudie pas la direction de projet culturel ou les métiers de l'exposition ou la régie. Je n'ai pas été formé à ça, j'ai vraiment appris sur...
À la muséographie finalement.
Oui voilà, non, j'ai pas été formé à ça. Moi j'ai été formé à éplucher des livres, à faire des problématiques, des plans, pas à organiser des expositions d'art. Du coup ça a vraiment été une aventure, notamment pour trouver les œuvres et même pour dialoguer un peu avec les artistes. Heureusement j'ai eu beaucoup de chance. Mais pour les trouver, d'abord, il y en a neuf. Le plus gros ça a été du bouche à oreille. Un tel que dont on m'a parlé, qui est talentueux, qui a fait telle exposition à Grenoble. Ils sont tous la plupart sont grenoblois, certains sont lyonnais, mais c'est surtout du bouche à oreille que j'ai pu trouver sur Instagram, par le compte Facebook d'une amie ou quelque chose comme ça. Mais j'ai aussi diffusé un appel à projet à travers des plateformes, des associations comme les galeries, que je remercie d'ailleurs, comme la galerie Alter Art au quartier Saint-Laurent, ou l'espace Aragon, ou le magasin, qui, à défaut de me trouver directement des artistes, ont diffusé un appel à projet dans leur réseau. Et ça fait, rien qu'à ces trois structures, ça représente plus de 300 ou 400 artistes. Et à un moment, j'ai croulé sous les demandes d'artistes et j'ai dû du coup faire une sélection. Et aujourd'hui, il y en a neuf.
Oui, du coup, pardon.
Non, vas-y.
Non, mais je veux dire déjà que ça avait l'air d'être compliqué de chercher, de trouver les artistes. Il fallait en plus que tu cherches dans une gamme précise de type d'art. Et comment tu fais pour trouver les artistes qui, en plus, correspondent
Déjà, étant donné le thème, on était tout de suite dans le figuratif. L'abstraction se lie assez mal, ne se lie pas très bien avec ce thème d'icône et idole. Il faut des visages. Une star, c'est avant tout une image, c'est avant tout un visage. Du coup, ça excluait déjà tous les artistes abstraits, que je trouvais d'ailleurs extrêmement talentueux, que j'ai pu voir. D'ailleurs, certains, je les ai mis un peu de côté dans un dossier sur mon ordinateur pour de prochaines expositions. Mais là, ça ne pouvait pas coller.
Il est ambitieux, on avait oublié ça. Ah,
mais j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Mais voilà, du coup... Après, moi, à la base, c'est vrai que je partais sur peinture, photographie, c'est ce qui me paraissait le plus simple. Mais en fin de compte, très vite, c'est un peu l'offre et les artistes qui ont fait leur loi. Et j'ai pas pu refuser quand une artiste sculpteur m'a proposé et autres. Donc voilà, c'est eux qui ont imposé leur loi un peu.
J'ai pas fini de les entendre bâiller, ces deux-là.
Mmh.
C'était un clin d'œil du soir.
C'est un clin d'œil du soir pour le matin. Donc, tu nous disais des visages, des artistes. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, justement, les médiums que tu as, du coup, trouvés ? Il y a 9 artistes.
Exactement. Et justement, une de mes fiertés sur cette exposition, c'est la variété de médiums qui sera, de techniques, de médiums qui seront proposés. Du coup, on a de la peinture, on a de la sculpture. Et c'est assez difficile de trouver de la sculpture aujourd'hui dans l'art contemporain. Donc peinture, sculpture, photographie, collage et également installation. Et aussi des tatoueurs. Alors des tatoueurs, bien sûr, qui ne vont pas proposer des tatouages, enfin ce n'est pas des performances sur des corps sur place, mais il y a une tatoueuse, une des meilleures de Grenoble, Amy Blackship Tattoo, qui nous propose une de ses créations qu'elle a faites sur tablette graphique et ensuite qu'on a imprimée, et aussi un des meilleurs tatoueurs de France pour ce qui est du tatouage réaliste, qui là est en train de nous envoyer quelques-unes de ses pépites qui vont être imprimées et ensuite installées dans une sorte d'installation, justement parce que une des meilleures traductions de cette ferveur idolâtre de la part des fans qu'on pourrait presque appeler fidèles envers justement leur idole, leur star. Le cas le plus extrême, ce serait de se tatouer le visage d'une star sur la peau. C'est pour ça qu'on a mis à l'œuvre les tatoueurs.
J'ai deux questions. Quand est-ce que tu as commencé à préparer tout ça ? Combien de temps ça prend ? Et du coup, au vu du nombre d'artistes qui se sont proposés, c'était quoi tes critères de sélection ? Et est-ce que tu as fait ça tout seul ?
D'accord, alors déjà...
Trois questions.
Première question, j'ai hérité du projet, on va dire, fin septembre, début octobre. Bon, à ce moment-là, je savais que c'est moi qui allais le faire, mais le moment où quand le boulot a véritablement commencé, c'est quand les premiers artistes ont commencé à envoyer leur... Quand j'ai eu les premières validations d'artistes, c'est-à-dire mi-décembre, fin décembre environ. Et ensuite, est-ce que je suis seul ? Non, heureusement, parce que bon, je suis commissaire d'exposition, c'est le titre apparemment que la commu a bien voulu me donner. Bon, le commissaire d'exposition, c'est un peu chef d'orchestre quand on fait une exposition, qui conceptualise, qui organise, qui donne l'idée générale et qui donne la direction. Et ensuite, il y a tous les autres musiciens qui jouent chacun leur partition. Heureusement, j'ai des amis justement en histoire de l'art, qui m'aident généreusement et bénévolement sur certains aspects qui soit je n'y connais rien, soit m'ennuient un peu, comme la communication Facebook, enfin le groupe Facebook qui a été créé, c'est pas moi qui l'ai créé, ou sur des aspects que je connais beaucoup moins, comme la technique, les mécaniques, les contraintes d'accrochage et tout. Et sinon, et aussi la commu, et notamment Bertrand Vignon me décharge un poids mais juste immense. Déjà, rien qu'au niveau, enfin un poids qui n'est pas anodin, le financement. Je n'ai pas trop à me soucier de où trouver l'argent ou quoi que ce soit, c'est la commu. Mais aussi sur plein d'autres, enfin c'est eux qui m'ont trouvé un régisseur qui est vraiment excellent, qui connaît très bien la salle. Et donc ça, c'est extrêmement rassurant, surtout pour une première exposition. À partir de là, je pense que je pourrais peut-être entreprendre des expositions avec plus de leadership sur certains aspects, mais commencer avec ça, ça ne pouvait pas être mieux. Et sinon, les critères de sélection, alors le premier critère de sélection, le goût, mon simple goût personnel, et évidemment parce que cette expo est faite pour le public et pas pour moi, que je propose aussi à mes amis, des amis qui sont en histoire de l'art, mais aussi et surtout à des amis qui ne sont pas en histoire de l'art, qui n'ont pas cette culture de l'image, cette culture parfois religieuse et tout. C'est comme tous mes textes, ceux qui servent à la communication, je les fais toujours lire à des personnes qui n'ont pas forcément ce bagage-là, parce qu'une des choses les plus difficiles dans la communication, c'est justement d'une écriture type mémoire de recherche à une écriture type marketing communication, sujet-verbe complément, assez simple mais efficace, assez punch. Du coup, ça a été un vrai défi, mais heureusement, j'avais déjà été bien entraîné avec les communiqués que je faisais pour le musée ou avec les chroniques de Radio Campus, quand je devais parfois synthétiser des idées assez complexes dans 3 ou 4 petites minutes. 3 ou 4 petites minutes, c'est ce qui était vraiment un fantastique défi. Donc là, vraiment, merci Radio Campus et aussi merci les amis du musée de Grenoble, parce que là je me rends compte à quel point toutes ces choses que je faisais, enfin voilà, les chroniques, je les faisais parce que j'aimais bien passer là le matin sur la radio. Et bon, la préparation de la chronique, c'était chiant. c'était assez emmerdant.
Tu venais surtout pour le petit-déj. Hein.
Exact. Exact. Et mais je me rends compte que aussi chiant que ça puisse être, c'était vraiment super. Donc le goût et aussi quelques autres critères comme par exemple la variété. Et la variété pas seulement au niveau des médiums mais aussi au niveau des profils. J'ai voulu aussi bien que des autodidactes soient représentés que des étudiants en école des beaux-arts mais aussi que les âges. La plus jeune a 23 à 24 ans. La plus vieille en a je crois plus de 60, 70, je vais pas demander son âge, vous imaginez bien. Et voilà, donc diversité de médium, diversité de profil, diversité de sexe aussi. J'espérais la parité, en fin de compte, les femmes l'ont emporté, une fois n'est pas coutume, 6 contre 3. Et voilà, mais le critère principal, c'est le goût avant tout.
Merci beaucoup, Caïs. Je vous propose une petite pause musicale. On a choisi Jed Prior d'Arapaima, puisque donc tu vas faire ton vernissage le 26 mars à 18h30, on le rappelle, à la salle du Trièvos au sommet de la Bastille. 150 allers-retours en téléphérique seront offerts au premier qui arrive en bas du téléphérique. Et c'est l'artiste, donc Arapaima, qui est un étudiant artiste de haut niveau, qui va accompagner ce vernissage. Voilà, donc on l'écoute et on revient juste après sur Campus Grenoble
90.8. Thank you. icône, idole. Ces notions sont à l'origine imprégnées de sacré et de religieux. Pourtant, elles sont fréquentes dans notre culture apparemment sécularisée. Jouant un double jeu, les icônes et idoles s'inscrivent dans le rêve et la réalité. Que signifient-elles aujourd'hui ? Pourquoi ce besoin d'en façonner et de les vénérer ? De quoi sont-elles les symptômes ? Quelle est leur relation entre un fan et son idole ? L'ordinaire peut-il devenir iconique ? L'exposition « Icônes et idoles » vous invite à méditer ces questions dans un lieu unique, à travers les créations de plusieurs artistes grenoblois et lyonnais, et presque autant de techniques, peinture, sculpture, dessin, photographie, collage, installation et tatouage. Entre fantasmes et illusions, entre culte et marchandisation, cette exposition vous provoque un égarement, une évasion, un rêve. Texte de Caïs Benani, étudiant en histoire de l'art, commissaire de l'exposition.
Bravo!
Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8. C'est l'heure de l'apérophonie dans laquelle feu l'équipe de la tête dans le pâté s'est invitée, puisque Caïs, qui est justement commissaire de l'exposition, qui commencera le mardi 26 mars dans le cadre du festival Rêve, qui est le festival culturel interuniversitaire proposé par la Commu. Incroyable, la communauté Université Grenoble Alpes, voilà, on va jusqu'au bout. Donc Caïs faisait partie de l'équipe de la tête dans le pâté, et donc nous sommes invités pour présenter sur le 90.8 pour présenter son, pour lui demander en fait de on passe à la casserole pour lui demander de présenter,
de faire ce qu'il aime pas du marketing, c'est de la ça. Communication pour cette expo.
Je déteste parler de moi.
Non mais là justement on va te demander de parler de motiver à aller voir cette expo.
Et de tes idoles.
Et de tes idoles.
C'est qui tes idoles ?
À moi ?
Oui, à toi. À part toi-même. Ou à part Émilie, ça compte pas.
Aragorn.
Pourquoi ?
Parce que je l'adore, parce qu'il est génial. Ou Viggo Mortensen, hein, son interprète. Mais je voulais qu'il ait l'Oscar, il l'a pas eu.
Et alors, il faut dire à Émilie qui est cette personne, parce que je sens son regard...
Non, mais regarde pas comme ça.
Et là, je la regarde de façon assez...
Il y a des silences dans le...
C'est dans Le Seigneur des Anneaux.
Ouais, mais c'est pour ça qu'on connaît pas.
L'enfer.
Non, mais l'enfer, voilà. Non, je connais pas Le Seigneur des Anneaux. J'ai été traînée dans un cinéma une fois, j'ai trouvé ça nul. Voilà, je suis désolée. Donc, ton idole.
Reste amis malgré tout.
Pourquoi ? Pourquoi c'est ton idole ?
Parce que j'adore le cinéma, j'adore les acteurs et actrices, j'adore les arts dramatiques. Donc, d'abord, je le trouve fantastique en tant qu'interprète, en tant que. Dans sa façon d'incarner le rôle. Ça, c'est pour le côté art dramatique. Et j'adore aussi Le Seigneur des Anneaux, cet univers. Donc, il y avait tout pour moi.
Et pourquoi, du coup, tu as besoin de façonner cette idole et de le vénérer, finalement ?
Allez !
Non, parce que c'est quand même les questions que tu poses à travers ton ouais. exposition. On t'a dit qu'on allait, pas te lâcher hein, ce soir. Pourquoi tu as besoin de le vénérer ?
Je ne le vénère pas.
Ah, tu ne le vénères pas.
Bon. Je l'admire.
Ah, tu l'admires, d'accord.
Différence.
Et quels sont tes symptômes ?
Mes symptômes ?
De cette, quoi, de quelle, cette admiration.
De quel mal-être je souffre pour projeter.
En fait, on est en thérapie, quoi.
Problème de virilité.
Ah. Ça, doit, une... être ça. Ça
Alors,
doit être ça.
Aragorn a une grande épée. Et souvent, en
psychologie. Anduril, elle s'appelle Anduril.
Anduril, oui, encore plus.
D'accord, donc problème de virilité. Et toi, Brice, t'as une idole ?
Ah ben. J'en sais rien. Peut-être mes parents.
Oh.
Voilà. Je vous aime.
Et
voilà.
J'espère, Caïs, que tes parents ne t'écoutent pas, du coup. Parce que t'as pas dit tes parents.
Non, moi, je tiens à préciser que pour être sûr de ne jamais être déçu par mes idoles, ce sont des personnages fictifs. J'ai dit Aragorn, j'ai pas dit Viggo Mortensen.
C'est vrai, c'est vrai.
Et vous alors ? Puisqu'on pose des questions à tout le monde.
Alors
même...
moi, depuis cet après-midi, c'est Nicolas Jarre. Voilà, il est très beau, il fait très bien de la musique. Et
chilien, non ?
Et Jérémy, il est... Alors figure-toi que, puisqu'on a regardé sa bio Wikipédia pour savoir où est-ce qu'on pourrait le trouver, tu vois, tu le croises comme ça, tu dis j'adore ce que vous faites. Eh bien, il est né à New York. Ouf, en 1990. Il a vécu de ses 2 ans à ses 8 ans au Chili avant de revenir avec sa mère à New York. C'est bien ça, Jérémy ? Parce que Jérémy était là cet après-midi quand j'ai décidé que Nicolas Jarre était mon nouveau...
Précisément, c'est bien ça.
C'est bien ça.
Je suis
hein.
proche de Nicolas Jarre, du coup je peux vous le confirmer officiellement, c'est précisément ça.
Très bien. Et du coup, on t'entend pas très bien dans le micro, je pense que tu peux augmenter ton gain et nous dire,
ah, oui,
du même coup,
ah,
oui. quelle est ton idole ?
Ah, ah, c'était une question piège, j'aurais pas dû prendre le micro, je devais rester à la technique bien sagement.
J'aurais dû écrire un autre communiqué.
non, mon idole, qui ça serait non, je pense Barbapapa.
Ok.
Parce qu'il a, il peut adopter toutes les formes, et finalement, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'idéal, l'idéal de ma vie, c'est de pouvoir m'adapter et de réussir à finalement accomplir tout ce que je veux.
Et en fait, la philosophie ce soir sur Campus Grenoble 90.8.
Et de la psychothérapie.
Et de la psychothérapie. Caïs, on a une surprise pour toi.
Ouais.
Une surprise. Une surprise que Jérémy devrait trouver assez facilement. Alors, on ne va pas en dire plus. Une surprise qui a été envoyée de quelque part, d'une personne qui ne pouvait pas être là, malheureusement. D'une personne talentueuse. Sa chronique est incroyable. Et on va l'écouter tout de suite. Vas-y Jérémy, je suis sûre que tu peux le faire.
On croit en toi, t'es notre idole.
Oui, oui.
Ça arrive, ça oui. arrive simplement,
oui, ça arrive.
Un petit pépin
oui, oh.
technique. Mais
ça ressemble oui. pas à la maison.
C'est bizarre, il y a, on est... On...
Bonjour Caïs, et bonjour à toute l'équipe de la tête dans le pâté, pardon, de l'apérophonie. Merci tout d'abord de me permettre d'enregistrer une nouvelle chronique et de ne pas m'avoir oublié après ces deux longues années. Vous l'avez dit mille fois... Le thème de l'émission du jour, c'est « Icônes et idoles » en l'honneur de l'exposition dirigée par Caïs, que je félicite chaleureusement au passage. Mais j'ai aussi un peu l'impression que le thème, c'est la nostalgie. C'est l'hommage à cette émission par laquelle vous êtes tous rencontrés. Du coup, j'aimerais rendre moi-même hommage à Caïs, bien entendu, par ce clin d'œil aux chroniques autour de l'art que nous avions pu faire, quelquefois ensemble même, mais aussi à Florence. Souvenez-vous, qui animait elle aussi cette émission il y a quelques années et qui proposait de petits formats autour de la photographie. Car dans tous les médiums qui sont proposés au travers de cette nouvelle exposition, il y a la photographie. Et une fois n'est pas coutume, je ne souhaite pas parler de dessin, de peinture, mais rendre hommage à la photographie encore difficilement considérée dans l'histoire de l'art traditionnel. Et pourtant, je vous le dis, la photographie est assurément un des médiums les plus intéressants lorsqu'on parle d'icônes et de sécularisation des arts. Lorsqu'on se demande comment, au XXe siècle, s'est passée la transition entre les beaux-arts et la culture populaire, comment par exemple, et c'est fabuleux, on en vient aujourd'hui à faire de la bande dessinée un art à part entière et même à dresser un marché autour d'elle, il faut absolument se pencher sur le rôle qu'elle a pu jouer. Nous n'avons malheureusement pas le temps de retracer toute son histoire, mais croyez-moi, c'est elle qui a bousculé de manière radicale les grandes catégories qui étaient les beaux-arts, l'œuvre, le sujet, voire même la création. Elle a su se hisser dans tous les domaines, dans une schizophrénie effrénée de la représentation. Dès le départ, elle permet autant aux classes populaires d'obtenir des portraits d'eux qu'aux bourgeois de s'essayer à une nouvelle oiserie artistique, et on ne parle même pas des scientifiques. Et cette schizophrénie, cette dualité de l'objet photographique, est toujours une marque profonde de la complexité et de la richesse de ce médium. Peut-on dire que la photographie est l'apanage d'une niche ? Parle-t-elle aux élites, comme on dit en France ? Oui, elle est un objet de collection, par exemple, qui obéit aux règles impitoyables d'un marché fine art, parfois maladroitement, il faut le dire. Elle trimballe une histoire qui régale les connaisseurs et régit sa production contemporaine, parfois obscure pour le chaland. Mais justement, comment parle-t-elle aux chalands ? Elle est partout, elle est dans les magazines, dans les journaux, sur les affiches des métros. Elle ponctue les infinités de sites internet, mais même pas seulement. On pourrait croire qu'elle n'est qu'un média comme un autre. Mais quid de ces photos gardées précieusement dans un cadre, dans le salon, ou carrément sauvegardées sur la carte SIM ? Qu'elles soient matérielles ou non, je vous le dis, la photographie représente pour tous une œuvre précieuse, une manière de rêver, de réfléchir ou d'apprécier. La photographie telle que nous l'avons créée aujourd'hui n'est pas qu'un simple média, un canal de communication comme on pourrait dire. Dans ce qu'elle a de plus absolu pour nous tous, elle ouvre autant au monde qu'à soi. Et c'est là que je souhaite vivement rendre hommage à cette exposition Icônes et idoles, dont le questionnement est absolument nécessaire aujourd'hui.
c'est que la photographie, mais à certains égards aussi la vidéo ou les jeux, ne sont pas seulement des supports, mais sont véritablement les lieux de nos projections, où nous pouvons, tous sans exception, réinventer nos images et celles du monde. Et c'est là, à mon humble avis, que naît la notion moderne de l'icône en tant qu'elle se crée à partir d'une culture, d'une société, et pas d'une niche, et concerne irrémédiablement cet ensemble. Bref, mon cher Caïs, merci de nous suggérer par cette exposition que la notion d'art aujourd'hui, dans toute sa profondeur, n'implique plus de sortir du lot comme un génie, comme on disait autrefois, mais au contraire se pose en termes d'intégration dans le même monde que nous aimons fantasmer quotidiennement, à notre manière.
Caïs, c'était donc Camille qui te parlait en direct de Paris. On ajoute aussi que Léo, on pense à Léo, qui nous est toujours une chronique sur la santé et qui n'a pas pu être là ce soir. Et il paraît qu'il a un super nouveau boulot, super prenant, et du coup...
Moi, je pense que surtout, il a voulu essayer qu'après, il a eu peur du talent de Camille et du coup, il n'a pas osé.
Je comprends.
Et je dis ça parce que certainement qu'il nous écoute et du coup, c'est facile de le tracher à distance.
Sans qu'il puisse rien répondre. Caïs, je t'ai vu penseur pendant cette chronique. Est-ce que tu veux réagir ?
Comment tu ne veux ne pas penser quand Camille, elle parle, même autour d'une bière ? Non, mais ça, c'est à la fois, c'est à la fois touchant et en même temps, ça fait réfléchir quand elle commente avec ses propres mots et sa pensée cette exposition, même
suisse.
Si... et son fine art. Non, mais voilà, quand elle utilise ses propres mots pour parler de cette exposition qu'elle ne verra pas, certainement, malheureusement, ça fait quand même, ça fait quand même plaisir, surtout sur les mots de la fin, je ne me souviens plus vraiment ce qu'elle a dit, sur l'intégration, plutôt cette porosité justement entre art, beaux-arts, se démarquer, et entre guillemets l'art populaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, porosité entre culture de masse, culture populaire et une sorte de beaux-arts et tout, on ne sait même plus maintenant vraiment faire la différence à partir du pop art, donc c'est à méditer ce qu'elle a dit.
Oui, parce que c'est vrai qu'elle parle de la photographie dans ce qu'elle dit, mais faire le choix d'intégrer les travaux de tatoueurs, c'est aussi donner une place à différents arts qui ne sont pas les arts auxquels on pense tout de suite, quoi.
Non, c'est sûr, c'est... Pour moi, c'est un peu comme le cinéma qui est à la fois un art et, on peut le dire, une industrie. C'est des machines. Un tatoueur peut être commerçant, peut être artisan et aussi peut être artiste. Ça n'empêche pas. On peut tous être artiste avec un portable, peut-être, et faire une belle photo. Mais tant qu'il s'inscrit, tant qu'il a une idée, quelque chose à dire, moi, ça me va.
C'est surtout que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ajouté le tatouage dans cette thématique-là précisément, parce que comme tu le disais, c'est pas rare, les gens qui se tatouent soit le visage de leur idole ou même le prénom.
Johnny est très représenté sur les tatouages.
Et du coup, c'est vraiment le truc, pour moi, qui est le plus extrême quand on idolâtre quelqu'un, c'est le tatouer sur la peau, quoi.
Non. La chose la plus extrême et que j'étais en train de lire tout à l'heure quand je peaufinais le dépliant pour l'exposition, la première phrase pour un peu caractériser la relation fan-idole, c'était une anecdote. En 1926, le 15 août, Rudolf Valentino, une superstar à l'époque de cinéma muet, décède dans une clinique et sa mort entraîne les suicides de plusieurs de ses fans. Une vague de suicides aux États-Unis et tout. Donc, la relation entre un fan et son idole peut être assez complexe et ambiguë, pour ne pas dire totalement hystérique, irrationnelle. Mais si le fait d'avoir intégré le tatouage t'intéresse beaucoup, tu seras d'autant plus intéressé de savoir comment Amy, l'artiste, a interprété la chose. Elle est extrêmement critique envers cette chose, justement, cette hystérie, cette passion, cette déraison qu'il y a là-dessus. Et elle... En tant que... Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'elle n'est peut-être pas simplement commerçante, mais aussi artiste, refuse qu'un client... refuse de tatouer sur la peau d'un client le visage d'un artiste. Pour elle, c'est débile. Et du coup, elle ne veut pas participer à ça. Et ce qu'elle a créé, son œuvre, justement, dénonce un peu cette puissance médiatique, justement, de ces icônes et de ces idoles Et à travers, enfin, vous verrez l'œuvre, j'ai pas envie de spoiler, mais hein, ça parle un peu Big Brother, manipulation et tout quoi.
Avant que tu nous spoiles quand même un peu, on va écouter une autre musique. J'ai pris un risque énorme en termes de.
Mais non.
En termes de.
T'as pas pris un risque, t'as pris un risque peut-être en termes de Radio Campus, oui. Mais en tant qu'équipe de La Tête dans le Pâté, la musique non. que tu as choisie est complètement dans le thème et dans les musiques que nous mettions.
Je risque de perdre mon travail.
C'est juste que t'as oublié que nous, quand on le faisait, il était 7h du matin.
Voilà.
Et que là, il est 18h30.
Voilà. Peut-être que je vais perdre mon travail, mais nous allons écouter France Gall.
Ouais.
N'écoute pas les idoles.
C'est dans le thème.
Et on se retrouve juste après.
Sur Campus Grenoble
90.8.
De toutes les chansons, celles que tu retiens ne sont rien qu'amour cruel sans lendemain. C'est la raison pour laquelle je n'aime rien, rien de ce qui me rappelle tous ces refrains. N'écoute pas les idoles, écoute-moi, car moi seule je suis folle, folle de toi. Ces chansons que tu fredonnes, comment veux-tu que je les aime? Personne n'a jamais pu me faire croire que l'on se donne à cœur perdu pour se quitter à l'automne, bien entendu. N'écoute pas les idoles, écoute-moi, car moi seule je suis folle, folle de toi. J'ai peur et je te résiste, tu sais pourquoi, je sais bien ce que je risque.
Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8. L'équipe est dissipée, hein. C'est l'heure de l'apérophonie et ce soir, nous sommes avec Caïs Benani qui nous explique un peu comment il a construit son exposition. Et on avait hors antenne une très bonne discussion. Justine, est-ce que tu veux reprendre ce que tu disais, s'il te plaît?
Oh putain, pardon. En fait, je m'interroge toujours sur les gens qui ont des idoles. J'ai pas d'idole, en fait, j'arrive pas à comprendre et ça m'intéresse, ce truc de statuer le visage de quelqu'un sur son corps. C'est ce qu'on disait. Et après, là, on arrivait, quand la musique nous a coupé dans notre discussion, enfin, la fin de la musique, on parlait des acteurs qu'on appréciait dans leur rôle, enfin, dans leur travail, en fait. Enfin, par exemple, on donnait l'exemple de Kevin Spacey. On trouve qu'il est très bon acteur et on a été déçus quand on a appris qu'il faisait des trucs pas très nets. Et bref, c'était juste ça. Et même si on n'a pas d'idole, tu te dis « Oh merde, non, pas lui ». Mais en fait, je trouve que cette discussion pourrait revenir à aussi est-ce que tu juges la personne ou... Enfin, tu vois, parce que du coup, on fait vachement le lien entre son boulot d'acteur et ce qu'il est, lui...
Oui, c'est pas la même chose, quoi. Les représentations qu'il incarne, souvent.
Ouais, c'est ça.
Il a souvent fait des psychopathes, par contre.
Ouais.
Oui, c'est vrai. Ça lui allait sûrement bien, du coup. Il fallait peut-être s'en douter un peu plus tôt. Mais bref. Ouais, non, je trouve ça trop fascinant, en fait, les gens qui ont des idoles et qui se projettent et qui pensent qu'à eux et tout. Les reportages sur les fans de Johnny, ouais, je trouve ça. J'adore. Ouais.
Michael Jackson également.
Mais ouais.
Ah oui, Michael Jackson, ça, c'est un des cas d'école avec ses procès et autres. Enfin, vu sa notoriété et les procès qu'il a encouru, qu'il n'a jamais été inculpé, mais il y a eu pas mal de soupçons de pédophilie et tout, et du coup c'est au regard de sa notoriété, Kevin Spacey c'est un enfant à côté,
oui, c'est
et là pour le coup et d'ailleurs ce matin sur France Inter il y avait une émission là-dessus parce qu'il y avait
un documentaire qui est sorti,
ouais. sur ceux qui auraient été abusés par Michael Jackson. Et ce qui est bien, c'est que le documentaire ne faisait pas que interroger ces personnes qui auraient été abusées, mais aussi les fans. Et un fan disait, j'ai interrogé justement mon idolâtrie, j'ai interrogé mon admiration. Est-ce qu'il est encore digne d'être admiré, d'être adoré? Il disait que c'était pas... Il disait que contre toute raison, il ne pouvait pas l'adorer.
Ah, mais c'est fou d'adorer quelqu'un comme ça autant, je sais pas.
Ça m'empêchera pas d'écouter des musiques de Michael Jackson.
Non, mais non, évidemment. Mais c'est juste, tu vois, cette idolâtrie. Bon, bref, ça me passionne, c'est tout, ça me passionne.
Comment est-ce que tu as pensé, du coup, la muséographie pour faire le lien entre tous ces arts qui sont hyper différents?
Définition de la muséographie, s'il vous plaît.
C'est le fait de mettre dans une pièce toutes les commandes artistiques sur une thématique ou pas donnée de l'exposition.
L'art de mettre en scène, c'est la mise en scène des objets qu'on appelle aussi scénographie simplement.
Oui.
La muséographie est une forme de scénographie, sauf que la muséographie concerne les arts plastiques, alors que scénographie peut aussi concerner le théâtre, les concerts et autres.
Il est fort. Hein.
Mais
comment t'as pensé du coup pour faire le lien entre tout ce que t'as regroupé, tous les artistes?
En fait, ça peut pas. C'est presque les artistes en fait qui l'ont fait eux-mêmes et malgré moi, je leur ai laissé de grandes libertés dans la manière qu'ils avaient d'interpréter ce thème. Donc moi j'ai diffusé un appel à projet, mais je leur ai dit c'est de la com, c'est de se communiquer, c'est du marketing qui était bien tapageur avec des mots des mots clash et tout. C'est pas exactement le même communiqué, hein. Mais c'est de la com. Et je leur dis bon, tant que vous restez dans la thématique idolâtrie, icône et ce caractère un peu presque religieux dans le rapport à l'idole et dans le rapport à l'autre, à la célébrité et tout, vous faites ce que vous voulez. Et ils m'ont pris au mot. Parce que vraiment, ils ont réussi à me surprendre. Certains ont retourné, avalé, mâché, recraché le thème de mille et une façons. Et c'est pour ça que ça a d'abord été très difficile, malgré toutes ces directions qu'ils prenaient, de rendre tout ça malgré tout cohérent. Un de mes plus gros problèmes, ça a été comment exalter à la fois la singularité, la sensibilité de chacun de ces artistes, tout en préservant, j'espère que j'ai réussi à préserver une cohérence d'ensemble. J'ai pas envie le soir de l'expo que les gens se disent mais ça, qu'est-ce que ça fout là, ça a rien à voir avec le reste et tout, c'est pas avec le thème icône idole, je vois pas et tout. C'est pour ça qu'avec un effort avec un effort de médiation quand je serai guide ou avec les petits textes que je vais écrire, j'espère que j'arriverai à rendre cohérente la présence de certaines œuvres, parce que autant certaines comme par exemple celle qui sert de communiqué, ça, c'est assez facile, ça paraît assez évident, autant d'autres, notamment certaines installations très conceptuel, c'est beaucoup moins évident et j'espère que le visiteur ne se sentira pas perdu.
Et comment t'as raccroché tout ça au rêve, qui est la thématique du festival dans lequel il y a ton expo?
Parce que les icônes et idoles, et on pourrait dire aujourd'hui les stars, je préfère dire icônes et idoles parce que bon, moi j'aime bien les côtés un peu religieux et tout, mais on pourrait dire les stars, ce qu'ils vendent avant tout c'est du rêve. Et on dit que le cinéma, qui est d'ailleurs le terreau où est né, où sont nées les stars, c'est d'abord dans le cinéma, avant la musique, d'où sont nées les stars. On dit que le cinéma, Hollywood, c'est l'industrie du rêve.
Et tout à l'heure, tu disais que les artistes, ils ont créé des choses, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui ont été créées pour le thème?
Bien sûr, il y a une trentaine de pièces qui seront exposées. Alors, par pièce, ça veut dire aussi bien un tableau qu'une installation entière. Et je pense qu'il doit bien y avoir, parmi elles, une vingtaine qui sont des créations originales. Et le reste sont des réemplois malgré le fait qu'ils aient été exécutés il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans, s'inscrivaient très bien dans une certaine scénographie et dans un certain contexte théorique que j'ai écrit, pouvaient très bien s'inscrire dans cette thématique.
Oui, j'imagine que c'est souvent d'ailleurs comme ça que les commissaires travaillent. Enfin, il y a plein d'expos où il y a des œuvres qui peuvent dater d'il y a 30 ans comme de maintenant, et le but c'est de faire un chemin par rapport à un thème, quoi.
Bien sûr, oui.
Bon, est-ce que, pour nous teaser un peu plus, tu pourrais nous décrire juste une œuvre qu'on va voir?
Bien sûr.
Oui.
Et pas celle de la brochure, hein.
Non, pas dans le tourloupe.
Hein.
Non, je vais décrire une des œuvres phares. Faut pas que je dise œuvre phare, les autres artistes risqueraient d'être jaloux. Mais une des pièces, en tout cas, qui sera, je pense, dont on entendra le plus parler aussi pour le meilleur et pour le pire, peut-être. Parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, En général, vendre une photographie, vendre une peinture, une sculpture, c'est pas très facile. Ouais. C'est pas très difficile pour le grand public, il n'y a rien de péjoratif quand je dis grand public. Par contre, le grand public a beaucoup plus de mal avec l'art contemporain, avec l'art contemporain depuis les années 50-70, notamment l'art conceptuel et les installations. Voilà, on a beau être une société qu'on se targue d'être très moderne et tout, on reste par certains côtés très conservateur, très traditionnaliste. Et même si on n'a jamais fait d'histoire de l'art, et même si on s'en fout de l'art, pour nous, l'art, c'est de la peinture, de la sculpture. Point à la ligne. Et j'ai moi-même été, même pendant mon cursus, j'ai été comme ça, et maintenant je ne le suis plus, j'en suis très fier. Mais du coup une des œuvres que je vais vous décrire, et ça va rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur cette incompréhension devant ces comportements idolâtres, délirants et fous, c'est pratiquement une pathologie. Certains, je pense, ont été internés avec ce genre de comportement. Une des artistes, la plus jeune, une Lyonnaise, qui a terminé ses études des Beaux-Arts, qui s'appelle Ophélie Desmurgères, nous propose du coup une de ces installations qu'elle avait déjà proposées, donc ça c'est un réemploi, même les installations peuvent être réemployées, il y a plusieurs années, la démarche artistique de Ophélie, pratiquement pour toutes ses œuvres jusqu'ici, c'est justement de se fondre littéralement dans la peau d'une star. Quand on s'est rencontrés, quand on a parlé, on s'est dit mais c'est dingue, c'est comme si cette expo avait été conçue pour elle. Elle fait des performances et des installations, et ces performances, c'est pendant des semaines, des mois, elle se fond comme une actrice dans la peau d'une star. Ça peut être Céline Dion, Rihanna, pour l'expo ça va être Nicki Minaj, ça peut être Beyoncé, et si elle doit se raser, se faire des faux tatouages, pour Nicki Minaj mettre des prothèses, des faux seins, des faux culs et tout, elle le fait, et elle fait ça dans le cadre d'un clip en particulier de cette star. Elle se prend en vidéo en prenant les mêmes accessoires qu'il y a dans le clip, en jouant simplement, par exemple dans un clip de Rihanna, elle est toute nue dans une baignoire, rasée sur le côté, donc elle donne son corps à la science, quoi. Donc elle va vraiment loin, et du coup pour ce soir-là, ça va être une performance. Ça ne sera pas une performance, elle ne sera pas là, elle ne pourra pas faire la performance, mais ce sera une installation où il y aura un écran où sera diffusé ce clip où elle joue Nicki Minaj dans un de ces fameux clips où il y aura un écran plat, et aussi, en fait, ça sera une sorte d'hôtel, l'hôtel d'un fan à Nicki Minaj. Hôtel A-U-T-E-L, c'est-à-dire le lieu de consécration où il y aura accroché sur les murs les faux seins et les faux culs, presque comme des reliques. Sur des tables, tout ce qui relève du maquillage et autres. Sur une sorte de rideau en plastique, les lettres Ophélie en lettres néon rose, un canapé, la télé en verticale pour le côté selfie et narcissique de la chose. Et du coup, cette œuvre va à la fois renvoyer au côté totalement délirant de ce genre de comportement. Enfin, c'est de la folie, c'est pathologique, comme je l'ai dit. Et aussi au caractère totalement, en fait, artificiel d'une star. Des prothèses sur un mur, du maquillage, des écrans, on ne peut pas faire plus artificiel. Donc la star, la star, elle peut être aussi bien objet de rêve qu'objet de consommation, qu'un objet standardisé. Il y a la star qu'on fabrique pour la ménagère dépressive, la star pour le motard viril, la star pour le chef d'entreprise. Voilà, ce sont des objets d'industrie.
Je suis trop fan, c'est bon, je viens.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Bravo, Caïs.
Oui,
bravo aux
nous
artistes.
Sommes très fiers de toi. Donc l'exposition, le vernissage se tiendra le 26 mars, le 26 mars je crois qu'on dit dans la vraie vie, à partir de 18h30 à la salle du Trièvos au sommet de la Bastille. Vous pouvez monter à pied ou prendre le téléphérique. Ce sera de 11h30 à 17h30 du 26 mars.
Du 27.
Du 27 mars.
Le 26 c'est juste le vernissage à 18h30 et à partir du lendemain, mercredi, ce sera de 11h30 à 17h30 pendant une semaine, du mercredi au mercredi d'après.
Jusqu'au 3 avril.
Et toi, tu fais le guide aussi toute la semaine ?
Je serai à la Bastille, oui, tous les jours, et pour faire l'accueil et les visites également, accompagné d'un autre médiateur bénévole qui m'a été confié par la commu, que je formerai pour commenter chacune de ses œuvres.
Mais toi, si on veut te rencontrer pour discuter de l'expo, on peut te trouver toute la semaine aux horaires d'ouverture ?
Oui. Sauf contre-temps, peut-être, mais normalement, je devrais y être tout le temps.
Tu vas passer ta semaine à la Bastille ?
Oui.
Ok, excellent.
Il n'y a plus dégueu comme endroit par ailleurs. Donc on rappelle que cette exposition Icônes et Idoles, dont le commissaire d'exposition est ce soir sur le plateau de Radio Campus, se tient dans le cadre du Festival culturel interuniversitaire, dont c'est la 13e édition et qui met en perspective cette année les rêves. Donc ce festival se tiendra du mardi 26 mars au mercredi 3 avril 2019 dans toute l'agglomération grenobloise. Et vous pouvez retrouver le programme de tout ce festival culturel interuniversitaire organisé par la commu. Avec brio, notamment par Bertrand, Julien et Loïc. Vous pouvez retrouver tout ça sur Internet, sur la plage Un tramway nommé culture, sur Facebook. Voilà, je pense que j'ai envie de te laisser le mot de la fin, Brice, je ne sais pas pourquoi.
J'ai rien à dire comme mot de la fin. Je peux dire pistache.
Pistache. Alors, merci, Brice. Ce sera le mot de la fin. Je remercie du coup chaleureusement Brice, Justine, Camille et Léo qui a participé aussi à nos discussions en amont, du coup d'avoir participé à cette émission. C'est trop chouette. Merci Caïs d'être revenu à la radio.
Merci à vous encore une fois et toujours.
Dans ton emploi du temps chargé.
Tellement d'auto-flatterie là entre nous.
La température monte. Et merci Jérémy d'avoir assuré la technique. Et merci Pauline d'avoir regardé à travers la vitre. Ça nous fait toujours plaisir de rencontrer nos auditeurs, puisque comme dirait quelqu'un que j'ai entendu la dernière fois, personne n'écoute Radio Campus, mais tout le monde sait ce qui se passe. À vous les studios. That was the freedom bell. To remind you that you are listening to Radio Campus Grenoble 90.8. L'apéro. L'apérophonie, le booster musical et culturel. This is Radio du 90.8.
Radio. There is news every hour that we are on the air. Every hour on the hour. We transmit world news, truthful and undistorted. Our feature programs offer music, satire, entertainment, information, commentary, and services. Real services.
L'apérophonie.
Yes, music just to please our audience.
L'apérophonie. Apérophone. Apérophile.
L'apérophonie.
This radio station has been constructed.
Apérophonie.
Apérophonie. Le cocktail musical et culturel du 90.
Freedom of speech. Radio. Communication.
Campus Grenoble, 90.
L'apérophonie.
L'apérophonie.
Le bounceur musical et culturel de ta radio.